Le journal Christelle Robière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une à l'instant, le tribunal fédéral d'Australie qui annule le visa de l'Australien Novak Djokovic.
On va y revenir dans un instant avec Fabrice Abgral en direct. Autre titre du brouillard ce matin sur l'élection présidentielle. La gauche est en ordre plus dispersée que jamais. Christiane Taubira, fraîchement candidate, plaide pour l'union. Mais derrière qui? Elle compte sur la primaire populaire, mais pas ses concurrents. Et franchement, on n'y voit pas très clair. Le pass vaccinal sera adopté aujourd'hui par les députés. Les retardataires du pass sanitaire, eux, se rendent massivement dans les centres de vaccination. Dans ce journal, une visite de chantier, celle de la gare de l'Est à Paris, fermée ce week-end pour réparer un pont centenaire au-dessus des voies. Et l'élégance décontractée, c'était le style Nino Cerruti. Le créateur italien est mort à 91 ans. Il avait aussi habillé au cinéma Belmondo ou encore Jack Nicholson.
Notre invité ce matin, dans 20 minutes, question sur la défiance des citoyens envers les élus. Les raisons de la défiance, c'est le titre du dernier livre de Luc Rouban, directeur de recherche et membre du CEVIPOF.
France Inter. C'est donc cette fois la fin d'un suspense qui dure depuis 12 jours. On l'a appris il y a quelques minutes, juste avant le début de ce journal. Novak Djokovic va donc être expulsé d'Australie. La Cour vient de rejeter le recours du numéro 1 mondial, Fabrice Abgral.
Oui, c'est vrai, le bras de fer est donc terminé. Novak Djokovic l'a perdu, le numéro 1 mondial va quitter Melbourne. L'Open d'Australie va commencer demain sans Djokovic. Lui, le triple tenant du titre qui visait un 10e trophée à Melbourne, son 21e en Grand Chelem, ce qui lui aurait permis, en cas de succès, de dépasser Federer et Nadal et de détenir seul le record mythique du nombre de titres du Grand Chelem. Novak Djokovic va donc quitter l'Australie comme un paria, comme un pestiféré, comme un hors-la-loi. Les trois juges fédéraux ont donné raison au gouvernement australien. Ils ont considéré que le numéro 1 mondial qui défend la non-vaccination était un mauvais exemple pour la communauté, qu'il représentait un risque, voire même un danger pour la santé des Australiens et que par son attitude, il pouvait influencer des personnes indécises à devenir des anti-vaccins. Les juges craignaient aussi que la présence de Djokovic sur le sol australien pouvait inciter certaines personnes à ignorer les règles d'isolement et potentiellement déclencher des troubles à l'ordre public de la part des militants anti-vaccins. Novak Djokovic devait débuter l'Open d'Australie demain. Il était prévu au programme en session de nuit face à son compatriote Kecmanovic. Eh bien, Djokovic sera remplacé par un lucky loser, un joueur repêché après avoir été éliminé au dernier tour des qualifications.
Merci Fabrice Abgral. Une candidature de plus à gauche, celle de Christiane Taubira qui ne veut justement pas être une candidate de plus à gauche. On est en plein casse-tête au nom d'un rassemblement de plus en plus improbable. Ajoute-t-elle de la confusion à la division ? Sur France 2 hier soir, elle parlait d'union.
La seule chance de la gauche, c'est l'union. Et les électrices et électeurs de gauche, majoritairement, souhaitent cette union parce que elles et ils savent que c'est la condition de la victoire. Et la condition de la victoire, c'est la possibilité de changer les politiques publiques. Ce quinquennat a été extrêmement rude pour les pauvres, pour les exclus. Il a été difficile pour les classes moyennes. Il a été très, très dur contre les chômeurs. Donc moi, ce qui compte, c'est ma responsabilité politique de voir l'état du pays et de dire qu'après ce quinquennat qui se termine avec un triplement des grandes fortunes, une distribution un peu obscène de gros dividendes, ce quinquennat, voilà, je ne veux pas qu'on le prolonge.
Et la meilleure ennemie de Christiane Taubira, Anne Hidalgo, affirme dans le journal du dimanche que cette candidature va diviser. Christiane Taubira est la seule parmi les principaux candidats de gauche à accepter de se soumettre à la primaire populaire qui va ensuite organiser un vote en ligne d'initiative citoyenne. Il y aura au moins 120 000 votants à la fin du mois. 7 candidats y seront soumis, même si la plupart ne le souhaitent pas, Benjamin Mathieu.
Parmi les favoris, seule Christiane Taubira est au clair. Si l'ancienne garde des Sceaux ne l'emporte pas le 30 janvier prochain, elle confirme bien qu'elle retirera sa candidature. C'est le cas aussi pour les trois candidats plus confidentiels, Anna Aguet-Portery, Charlotte Marchandise et Pierre Larouturou. Pour les autres, par contre, c'est non. Mon agenda se poursuit. L'idée n'est pas dans l'effacement, nous dit la socialiste Anne Hidalgo, qui a fait preuve sur le sujet d'inconstance, décidant finalement de ne pas y participer en l'absence de Yannick Jadot. L'écologiste le répète en boucle, lui non plus n'ira pas. Pas mieux chez les insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Son directeur de campagne, Manuel Bompard, estime même que la primaire est organisée pour que Mélenchon ne la gagne pas. Les organisateurs soumettent eux leur soutien au vainqueur à une condition, que celui qui sera désigné signe un contrat de rassemblement, donnant l'impression que la gauche tourne en rond.
et Jean-Luc Mélenchon se démarque avec un meeting high-tech à Nantes tout à l'heure qu'il nous promet immersif et olfactif devant 3000 personnes masquées. Ce sera en début d'après-midi. À droite, Éric Zemmour s'est pris une bronca sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. Vendredi, le candidat d'extrême droite avait expliqué que, je cite, l'obsession de l'inclusion était une mauvaise manière faite aux autres élèves, expliquant qu'il fallait des établissements spécialisés. Une déclaration jugée pitoyable par la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel.
Après deux semaines de débats politiques acharnés et de chausse-trappe, le projet de loi sur le pass sanitaire a donc été adopté, et il sera adopté cet après-midi par les députés.
Oui, sur le pass vaccinal sans Olivier Véran, puisque le ministre de la Santé souffre du Covid. Il devrait entrer en vigueur dans les prochains jours. L'idée, c'est de prendre de vitesse le variant Omicron. En attendant, le pass sanitaire, lui, est désactivé depuis hier pour ceux qui n'ont pas fait leur troisième dose moins de 7 mois après la seconde. Et dans les centres de vaccination, on a vu beaucoup de retardataires. Reportage Elsa Vandevielle.
Dans ce centre de vaccination parisien, les patients défilent.
J'ai besoin d'être à jour, sinon on risque de me supprimer mon passe sanitaire.
Essentiellement, pour le rappel vaccinal, une centaine de rendez-vous ont été pris pour la journée du 15 janvier, selon l'infirmière.
Il y en a qui viennent comme ça, assez paniqués, mais voilà. On les rassure au maximum et après on répond à la demande.
D'après elle, très peu de retardataires. Laura attend son tour dans la salle d'attente. Elle a anticipé le délai de 7 mois pour le rappel vaccinal, contrairement à son conjoint, dont le passe est sur le point d'expirer.
Il a attendu parce qu'il n'a pas le temps avec le travail, mais c'est vrai qu'il faut qu'il se dépêche.
Assis à la terrasse d'un restaurant, quelques rues plus loin, Dimitri aurait dû être avec sa femme, mais elle est enceinte de 3 mois et attend d'accoucher avant de faire son rappel, prête à renoncer à toute sortie pendant quelques temps, faute de passe valide.
On peut se faire livrer à la maison, on peut se préparer à manger tranquillement, ça nous permet de nous retrouver un petit peu.
Sur son site, l'assurance maladie indique qu'une tolérance de 7 jours supplémentaires est consentie une fois passé le délai des 7 mois.
Quant aux antipasses, ils étaient 2 fois moins nombreux à manifester hier que le samedi précédent, 54 000 personnes dans toute la France. Un lifting, le temps d'un week-end pour une vieille dame. La gare de l'Est à Paris est neutralisée depuis vendredi soir. Le temps de réaliser des travaux au-dessus des voies ferrées. Ça fait 20 ans qu'une gare aussi importante n'avait pas été fermée durant 2 jours. Et encore, il faut travailler en un temps record. Visite de chantier avec Claire Leys.
50 heures et pas une de plus pour sécuriser l'un des très vieux ponts de la gare, Philippe de Girard, de son petit nom. Cet ouvrage surplombe les rails depuis près de 100 ans, alors forcément, il n'est plus en grande forme. Et pour apercevoir le chantier, il faut marcher au milieu des voies désertes.
On va cheminer le long. Il y a un grillage orange au bout.
C'est Philippe Cornat, chef de projet pour SNCF Réseau, qui nous guide.
Il y a de la graisse au niveau des aiguillages. Ne mettez jamais un pied dans l'aiguillage.
Pour démolir une partie du pont, les ouvriers sont suspendus à 6 mètres de hauteur, un peu comme des alpinistes.
Ils sont encordés, attachés à des ancrages fixés sur l'ouvrage et ils travaillent sur la dalle qu'ils sont en train de démolir. Donc une image, on est en train de couper la branche sur laquelle on est assis, donc c'est pour ça qu'ils sont attachés. Tous les éléments viennent tomber sur l'échafaudage.
Les travaux s'effectuent du vendredi soir jusqu'au lundi matin en continu. On est à plus de 60 personnes qui se relaient également pour effectuer tous ces travaux.
C'est très rare qu'une gare soit totalement mise à l'arrêt, mais là, impossible de faire autrement. L'échafaudage est posé en travers des voies. Il touche des câbles de 25 000 volts. L'électricité a donc bien sûr été coupée. Mais les ouvriers doivent faire vite, car la gare de l'Est accueille 130 000 voyageurs par jour en moyenne. Et la SNCF l'a promis, le trafic reprendra dès demain matin.
Reportage Claire Leys. Le déficit public sera moins profond que prévu cette année, proche de 7% du produit intérieur brut. D'après le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt explique ce matin dans le journal du dimanche que cette amélioration est due à de meilleures rentrées fiscales liées à une croissance plus forte que prévue. Les ventes privées et autres promotions n'ont pas tué les soldes et on aime encore faire du shopping en réel dans les magasins. Ce premier samedi de braderie reste un moment privilégié pour les grandes enseignes. À Bordeaux, hier, il y avait foule dans le centre-ville malgré le froid. Stéphane Iscock.
Tout en haut de la rue Sainte-Catherine, Olivier fait une petite pause adossée à une vitrine. Il est venu de Limoges en voiture avec 3 amis pour faire les soldes. 500 km dans la journée et il repart les bras chargés de sacs.
Il n'y a pas que pour moi là. Je suis avec des amis et on est monté du Limousin exprès à Bordeaux pour pouvoir faire les soldes du coup. Franchement, j'ai quand même pas mal dépensé, à peu près 200 euros. Donc je trouve que c'est assez raisonnable. pour ce que j'ai pris, en tout cas, très clairement, c'est rentable. On finit un dernier magasin et puis on y va.
Même état de fatigue pour Lisa et sa copine. Une journée à arpenter les rues bondées du centre-ville bordelais. Tout ça pour pas grand-chose, finalement.
Il y a quelques trucs en solde, mais le plus que j'ai trouvé, c'est hors solde, quoi. C'est qu'il y en a, mais c'est pas à notre goût. Moi, je commande beaucoup plus sur Internet. Enfin, déjà, c'est moins cher qu'en magasin.
Tout est dit. Les indépendants ne peuvent pas lutter face à cette concurrence. Reza, patron de la boutique Adélaïde, s'est fait une raison. La frénésie des soldes, c'est fini.
Ça veut plus rien dire, vraiment. On a tous les ans, on a des Black Friday. Tout le monde fait des soldes privés 10 jours avant. Donc le premier samedi des soldes ne veut plus rien dire. Le mercredi qu'on vient de passer, le premier mercredi des soldes, avant, les gens prenaient des jours de congé pour venir nous voir. C'est fini tout ça. On a perdu du chiffre d'affaires, c'est sûr, mais on adapte, on achète moins. On essaye d'avoir un stock différent. Avant, on achetait vraiment en quantité, en journée, mais là, on achète vraiment, on fait attention.
Avis aux amateurs quand même, les soldes d'hiver, c'est jusqu'au 8 février prochain.
Reportage de Stéphane Iscoque de France Bleu Gironde.
Il avait inventé le raffinement décontracté. Le créateur italien Nino Cerruti est mort hier, il avait 91 ans.
Et il avait imposé cette élégance si particulière dans le monde du cinéma. Il avait travaillé pour de nombreuses productions hollywoodiennes et aussi pour beaucoup de films français. Isabelle Pasquier.
Le costume trois pièces, chic et décontracté de Belmondo dans Borsalino, c'est la griffe de Nino Cerruti qui a toujours été passionné de cinéma. C'est Michael Douglas qui lui ouvrira les portes d'Hollywood. La veste rose de Nicholson dans Les Sorcières d'Eastwick, c'est lui. Le maestro de la mode va travailler sur les costumes de plus de 60 films. Nino Cerruti faisait du sur-mesure pour les personnages. C'est ce qu'il confiait en mai 94 à Jean Lucas sur France Inter.
Je n'habille pas dans les films Clint Eastwood ou Michael Douglas. J'habille le personnage que dans ce film, l'acteur doit jouer. Quand je travaille dans la mode, je dois exprimer mon style ou mes idées dans les domaines. Quand je travaille pour le cinéma, je dois me mettre entièrement au service du personnage et aider à définir le caractère.
Nino Cerruti signe le style de Robert Redford dans Proposition indécente, Richard Gere dans Pretty Woman. Il habille également Michael Douglas, John Malkovich, Clint Eastwood, Sharon Stone, Delon, Depardieu, Dutronc et Catherine Deneuve. Et après avoir inspiré le cinéma, la collection automne-hiver 2020 de Cerruti s'inspira des 4 nuits d'un rêveur de Bresson. Dans la vie et au cinéma, Nino Cerruti disait vouloir des hommes plus libres dans leurs élégances et plus élégants dans leur liberté.
Et cette élégance, il l'appliquait aussi dans le milieu du sport, pour l'équipe Ferrari. Et dans le tennis, il habillait Jimmy Connors dans les années 80.
Vous avez parlé de tennis, justement, c'est l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Bon, cette fois le match est terminé. Australie 1, Djokovic 0.
Eh oui, c'est Novak Djokovic qui perd. Vous l'avez peut-être entendu en début de ce journal avec Fabrice Abgral. Le Serbe numéro 1 mondial de tennis ne disputera pas l'Open d'Australie et va être expulsé du pays. La Cour fédérale australienne a rendu sa décision ultime un peu avant 8h heure française. Le bras de fer entre le joueur non vacciné et le gouvernement australien durait depuis 12 jours maintenant. Le tournoi du Grand Chelem commencera donc bien demain sans le tenant du titre.
Bon, et dans l'actualité, il y a aussi du football, bien sûr.
Et encore un but signé Kylian Mbappé hier soir au Parc des Princes. Le PSG, largement en tête de la Ligue 1, s'est imposé 2-0 face à Brest dans le championnat féminin. Des victoires hier du Paris FC, de Fleury et de Montpellier. Les matchs du PSG et de l'Olympique Lyonnais en tête de classement sont reportés en raison du Covid.
Et puis dans le championnat d'Europe de handball, cette fois jusqu'à maintenant, tout va très très bien pour les Français.
Deuxième large victoire, oui, hier soir face à l'Ukraine. 36-23, la qualification pour le tour principal se précise contre l'Ukraine hier et sans Nicolas Karabatic laissé au repos. Les Bleus souhaitaient monter leur niveau et donner du temps de jeu aux nouveaux. Mission accomplie, résume le capitaine de cette équipe de France, Valentin Porte.
On a vu que la défense était en place, donc ça c'était quelque chose qu'il fallait continuer à améliorer tout en restant dans ce qu'on s'était dit. Après, on avait des secteurs de jeu où il fallait progresser, notamment en attaque placée ou sur le jeu de transition. Ce soir c'était beaucoup mieux, certes c'était pas la meilleure équipe en face, mais il fallait quand même bien faire les choses et ça a été bien fait. Donc on emmagasine de la confiance, on monte en puissance petit à petit et c'est parfait.
Et le prochain rendez-vous pour l'équipe de France à l'Euro de handball, c'est demain soir contre la Serbie. La Coupe d'Europe de rugby, le Racing 92 se qualifie pour les huitièmes de finale en battant les Ospreys. La Rochelle s'en rapproche de ses huitièmes après sa victoire sur Batz. Le Stade Toulousain, champion en titre, en revanche, s'est incliné hier contre les Wasps, mais garde une petite chance de qualification qui se jouera la semaine prochaine.
Et puis, il y a un nom qu'il va falloir s'habituer à entendre en ski handisport, Laetitia.
Hyacinthe Delaplace, premier championnat du monde pour le skieur malvoyant, et déjà 2 médailles d'or après la descente avant-hier, le Super G hier avec son guide Valentin Giromoine.
C'est une course engagée, on a su trouver la bonne interdistance avec Val et le bon feeling, et en plus on aurait pu peut-être encore engager un peu plus sur certaines portions, mais dans l'ensemble on est satisfait. Je vais laisser répondre Val maintenant.
C'était plutôt dur à skier, donc c'est une belle manche. On a moins de marche qu'hier, mais on est ravis d'être devant et on est ravis de se doubler pour commencer nos premières courses.
Oui, parce que les deux skieurs ne travaillent ensemble que depuis quelques mois. Hyacinthe Delaplace, en tous les cas, il a bien fait d'arrêter l'athlétisme pour passer au ski. Oui, puisqu'il était sprinter avant, il a même couru les Jeux Paralympiques de Londres sur le 400 mètres.
Et déjà une belle complicité entre eux, on l'entend. Merci Laetitia.
Laetitia Bernard, dans le journal de Christelle Rebière, le temps de ce dimanche.
La météo avec Bleu-Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec du givre ce matin et donc des températures encore bien basses, Jean-Michel Golinski.
Le début de journée est très froid entre le sud-ouest et le nord-est, entre moins 5 et moins 8 degrés. Naturellement, sur ces régions, les brouillards sont givrants. De part et d'autre, le froid est moins vif, vers 0, moins 2 degrés, du Val-de-Loire à la région parisienne jusqu'aux Ardennes. Les côtes de la Manche et le pourtour méditerranéen sont souvent dans le positif. Il fait par exemple 8 degrés à Boulogne-sur-Mer, Brignoléan, Port-le-Cal et à Lille-Rousse. Aujourd'hui, pour profiter du soleil, il faudra se trouver dans la moitié sud, avec un peu de vent dans le domaine du Mistral et de la Tramontane, mais une fois passé un axe Bordeaux-Besançon, la grisaille va se maintenir toute la journée, avec un peu de pluie à prévoir au nord de la Loire et des flocons des Ardennes au Grand Est. Avec cet après-midi, les températures identiques à celles d'hier, elles seront donc assez douces près de l'océan et de la Méditerranée, mais plus fraîches dans l'intérieur.
Jean-Michel Golinski, Météo France.